France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés, jusqu'à 13h, les duellistes Natacha Polony, journaliste, éditorialiste, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine et en particulier aujourd'hui sur l'élection d'un nationaliste critique de Bruxelles et admirateur de Trump à la présidence polonaise. Et puis, pour le débat, nous recevrons une sociologue, chercheuse à l'Institut National d'Études Démographiques qui publie une grande enquête sociologique sur un sujet qui nous concerne tous, ou presque, les voisins. Nous sommes tous, en effet, le voisin de quelqu'un, mais quelle relation les voisins entretiennent-ils? À rebours de l'idée d'un enfermement numérique, le voisin demeure essentiel dans notre vie sociale. Le livre s'appelle « Ce que voisiner veut dire ». Il est édité au PUF. Sa directrice, la sociologue Joanie Caillouette-Ramblière, sera avec nous pour le débat, mais pour l'instant place au duel.
Le grand face-à-face, Thomas Snegaroff sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour.
Allez Gilles, avant de commencer, j'aimerais qu'on rende un hommage à un très grand historien que j'ai beaucoup lu, titan de l'édition, je crois qu'il a dirigé 700 livres chez Gallimard. Il nous a quittés il y a quelques jours, c'est Pierre Nora. Pierre Nora, vous le connaissiez et je peux dire que vous l'admiriez.
Oui, Pascal Horry a cette semaine rendu hommage et montré ce qu'était la contribution majeure au débat public de Pierre Nora, l'homme aux 700 livres édités, l'homme des lieux de mémoire, l'homme de la revue du débat, l'auteur qui avait publié récemment deux tomes de ses mémoires Jeunesse et une étrange obstination. Je voudrais dire, moi, un mot de l'homme privé, puisque grâce à Anne Sinclair, qui est à la fois mon amie et sa femme, j'ai eu la grande chance, le privilège de le rencontrer beaucoup et de, je crois, de devenir son ami. Ce qui m'a frappé par rapport à l'image d'un homme, d'un historien que l'on peut avoir replié dans le passé et dans ses livres, c'est à quel point Pierre Nora était ancré dans l'avenir. Il n'y avait pas un repas, une discussion dans laquelle le sujet n'était pas d'essayer de mieux comprendre les évolutions du monde et de la société, et à quel point c'était un homme qui était ancré dans la vie, qui était... C'était un bel homme, c'était pas seulement un grand homme, c'était un bel homme. Dans tous les sens du terme, il avait un œil bleu, malicieux, une voix chaude absolument extraordinaire et un sourire charmeur. Mais c'était un bel homme aussi parce que il était extrêmement prévenant et bienveillant envers ses amis.
Merci beaucoup Gilles. Et on commence justement avec un sujet qui l'aurait passionné, la Pologne, un pays qui a élu à sa présidence un historien, Karol Nawrocki, qu'on va écouter le soir de son élection.
Nous ne permettrons pas que Donald Tusk ait le monopole du pouvoir, un pouvoir mauvais, qui se moque des finances publiques, qui nous prive de nos grands rêves et de nos aspirations.
Natacha, aidez-nous à y voir plus clair dans ce coup de tonnerre électoral venu d'un pays qu'on avait souvent érigé en exemple pour avoir tourné le dos au national-populisme. C'est une sorte de retour en force. Ça raconte quoi de ce pays et plus largement peut-être du populisme?
Oui, c'est un phénomène assez intéressant parce qu'en fait, Nawrocki est sans doute beaucoup plus, pour reprendre vos termes, national-populiste que son parti lui-même, qui certes est ultra conservateur, qui a posé des problèmes énormes dans l'état de droit en Pologne. Mais là, cette veine populiste s'est vraiment exprimée dans la façon dont cet homme a fait campagne, avec des déclarations « je connais les Polonais, je comprends leurs besoins, je suis l'un d'entre vous ». C'est vraiment cette idée du leader qui incarne le peuple uni et uniforme face à des élites corrompues. Et deuxième élément extrêmement important, en effet, la relation à Donald Trump et aux États-Unis. Parce qu'en fait, il y a quelque chose d'assez frappant à voir la complexité des relations que la Pologne entretient avec les États-Unis. Au sein de l'Europe jusqu'à présent, les Polonais étaient très clairement les tenants d'un atlantisme farouche. Il croit au parapluie américain, il a toujours été hors de question pour eux d'en sortir. Mais l'arrivée au pouvoir de Donald Trump change en partie la donne et complique la question. Puisque même si Donald Tusk, donc le Premier ministre libéral, n'a jamais eu l'intention de se brouiller avec les États-Unis, les relations étaient légèrement conflictuelles avec Donald Trump, on s'en doute. Et dans ce jeu-là, le nouveau président entend au contraire affirmer ses liens avec les États-Unis, ce qui va poser d'énormes problèmes dans la coordination en Europe et notamment dans la vision d'une défense européenne. Pour le dire, quand on regarde l'ensemble des différents tableaux et ce qui est en train de se passer dans beaucoup de pays à l'est de l'Europe, on voit des sociétés fracturées et fracturées véritablement oscillant au gré des élections, dans une tentation vers un populisme très conservateur sur les questions sociétales, considérant que le pouvoir judiciaire pose problème, et puis un retour vers une volonté d'ancrage européen. Nul ne sait ce qui va en sortir. En l'occurrence, Donald Tusk ne va pas pouvoir appliquer son programme puisque le président a un droit de veto sur les lois en Pologne. Mais surtout, je pense que les Européens de l'Ouest seraient bien inspirés de comprendre, enfin d'essayer de s'intéresser aux différences qu'il peut y avoir entre des pays qui sont à l'ouest de l'Europe et qui ont vécu depuis 1945 arrimés à ce qu'on peut appeler l'Occident, et des pays d'Europe de l'Est qui ont sur énormément de sujets des visions différentes.
Gilles, cette élection d'un historien jeune de 42 ans, ancien hooligan, très critique envers l'accueil des réfugiés ukrainiens dans son pays, et pourtant pas du tout pro-Poutine, mais très pro-Trump, aidez-nous à y voir un peu plus clair peut-être sur ce qu'il est, qui il est, et le sens qu'on peut donner à cette victoire.
Oui, nul ne sait ce qu'il va en sortir, disait Natacha, et donc je crois qu'il faut essayer à la fois d'analyser les résultats et de réfléchir à ses conséquences. Sur les résultats de ce second tour, qui ne sont pas une surprise considérable, parce qu'il y avait eu un premier tour dans lequel à la fois le candidat qui a été élu et les forces d'extrême droite, plus à droite encore, faisaient 50%. Donc c'est pas une surprise complète.
Oui, mais juste, on avait vu en Roumanie qu'il y avait pu avoir un rebond des...
C'est ça qui est intéressant. Quand on regarde les résultats, d'abord la participation, 73% de participation dans un pays, la Pologne, qui, comme beaucoup des pays d'Europe centrale et orientale, connaît une participation qui est faible, c'est un record. Et c'est un record avec même un surcroît de participation, un peu comme en Roumanie par rapport au premier tour, et un surcroît de participation dont les nouveaux électeurs ont plutôt majoritairement voté pour le candidat libéral que pour le candidat conservateur. Mais ça n'a pas suffi parce que les reports précisément des candidats d'extrême droite, a été excellent. Deuxième mot sur les résultats, quand on regarde les déterminants du vote, ce qui est très frappant, c'est de voir que à quel point la sociologie du vote est quelque chose d'attendu par rapport à ce que l'on connaît dans tous les pays européens. Le genre, ce sont les hommes, et encore davantage les jeunes hommes qui ont voté pour lui. Le lien entre le niveau de diplôme et le vote, une progression linéaire, on part à 73% pour le candidat d'extrême droite, pour les gens qui n'ont pas de diplôme, jusqu'à 65% pour ceux qui ont un diplôme du supérieur. La géographie, c'est dans les villages et dans les petites villes que l'on a voté massivement pour le candidat conservateur, et dans les métropoles que l'on a voté pour le maire de Varsovie. En fait, la seule différence par rapport aux autres pays, c'est le vote des Polonais de l'étranger, les immigrés. On avait vu au moment de l'élection en Turquie, on avait vu il y a peu de temps sur l'élection au Portugal, que les ressortissants étrangers votaient plus pour l'extrême droite. Là, pour les Polonais, c'est le contraire.
Et puis, ça c'est très américain aussi. C'est-à-dire que j'entends tout ce que vous dites, y compris ça, les Américains d'étrangers votent plutôt démocrate, ça fonctionne. Hein.
Voilà, ça fonctionne. Alors maintenant sur les conséquences. En fait, on peut avoir deux lectures. On a la Fondation Jean Jaurès a publié cette semaine une note de Sylvain Kahn, qui est chercheur à Sciences Po,
spécialiste de l'Europe.
Voilà, spécialiste de l'Europe, et qui dit. En réalité, les conséquences vont être minimes, avec des arguments qui sont intéressants. Il dit la Pologne était déjà en cohabitation. Le précédent président était déjà un président du PiS, elle l'est encore. La Pologne était déjà à 50-50. 50%, un pays qui était fracturé, elle l'est toujours. La seule différence, c'est que la droite radicale s'est encore radicalisée. Mmh. Et il dit, contrairement à la France... En Pologne, c'est le Premier ministre qui siège au Conseil européen. Et donc, peut-être que tout ça est contre-intuitif, mais que ça ne va pas changer tant que ça. Moi, je pense que que les conséquences sont quand même plus lourdes, dans la mesure où, en Pologne, le pouvoir du président de la République s'apparente, au moins par un aspect, Natacha l'a évoqué d'un mot, à celui du président américain, qui est celui du droit de veto. Mmh. Et pour lever le droit de veto du président sur une loi, il faut les 3/5 du vote... À la diète, 3/5 qui ne seront pas atteints. Donc il y a un risque d'impuissance interne et ce faisant d'affaiblissement et d'impuissance externe. Donc ça, je pense que pour la Pologne, c'est important et que pour l'Europe aussi, ça risque d'être problématique.
Le grand face-à-face, le duel.
Il s'avère que ce crime est un crime qui était prémédité et qui était signé. Prémédité, il y a deux vidéos, avant et après. L'individu avait des armes et il est signé. C'est un crime raciste, au vu des éléments que nous avons actuellement, que le PNAD, évidemment, devra confirmer. Ce que je veux dire, c'est que le racisme, en France et ailleurs, c'est un poison. Mais on le voit bien, c'est un poison qui tue. Et je veux rappeler que chaque acte raciste est un acte anti-français. C'est la raison pour laquelle c'est un acte extrêmement grave et, à juste titre, le PNAT s'en est saisi pour cette dimension terroriste.
Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, après l'assassinat de Hichem Mirawi par son voisin Christophe B. à Pugey-sur-Argence dans le Var, le PNAT, parquet national antiterroriste, saisi pour la première fois pour un homicide inspiré par des idées d'ultra-droite, même si le suspect ne reconnaît pas le motif raciste, il reconnaît les faits. Gilles, quelle lecture faire de cet événement dramatique de la semaine? Est-ce qu'on bascule dans autre chose avec ce crime raciste?
D'abord, je crois que les mots de Bruno Retailleau étaient attendus, ils avaient tardé en d'autres circonstances, et là, c'est les mots qu'il fallait prononcer. Quand il dit le racisme est un poison qui tue, Olivier Faure a prononcé une formule qui était celle du racisme d'atmosphère, qui est un peu la même idée.
Et qui est surtout tiré du djihadisme d'atmosphère.
Absolument, qui est tiré du djihadisme d'atmosphère, qui est une formule qui a été introduite notamment par Gilles Kepel avec un sens qui était un sens précis, qui était une mutation du djihadisme, où on passait d'une situation dans laquelle les actes terroristes étaient commandités et organisés, disons par le haut, par Daesh ou par Al-Qaïda, à une situation dans laquelle on avait d'une certaine manière un djihadisme moins vertical et plus horizontal. Le problème avec cette formule, déjà avec le djihadisme d'atmosphère, c'est qu'elle a été victime de son succès et que donc c'est une formule attrape-tout qui a perdu en précision ce qu'elle a gagné en extension. Et c'est un peu la même chose, je trouve, avec cette formule du racisme d'atmosphère après l'assassinat de Pugey-sur-Argent. Alors, je crois que la société française est beaucoup moins raciste qu'elle ne l'était il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Et ça, il faut le dire et il faut le répéter. Mais que les actes racistes commencent à croître, on l'avait vu aussi avec le même phénomène, avec l'antisémitisme. Et de manière peut-être plus précise, je crois qu'il y a une ignorance coupable des discriminations dont sont la victime les minorités et notamment les musulmans. C'est vrai dans l'accès au logement et dans l'accès à l'emploi. Ça a disparu du débat public, ça n'a pas disparu de la réalité et qu'il y a une focalisation malsaine et excessive du débat public sur les étrangers, sur l'immigration et sur les musulmans.
Natacha, est-ce que c'est la conséquence d'un débat public, pour reprendre l'expression de Gilles, osons le mot, islamophobe, ce qui s'est passé là?
Alors, je rejoins Gilles sur un point important. Il y a, disons, une société qui est de moins en moins raciste, mais des racistes qui sont de plus en plus radicalisés, en gros, pour le dire simplement. Et c'est parfaitement ce qu'on voit dans le profil de l'assassin d'Hichem Mirawi, puisque l'historique de ses pages Facebook montre quelqu'un qui, petit à petit, dérive, d'abord extrêmement frappé par les attentats de 2015, et puis partant dans un délire assez marqué, et dont on voit les différentes étapes jusqu'au déferlement de haine sur les réseaux sociaux. La question est donc de savoir, si, notamment, enfin une des questions, c'est de savoir si ce terme racisme d'atmosphère dit quelque chose. Il y a, je pense, en effet, dans une partie de la droite et de l'extrême droite, une focalisation sur les questions identitaires qu'on retrouve dans certains médias et qui est franchement problématique et qui tente à faire oublier les autres questions. Et il y a
la question sociale, par exemple.
La question sociale, la question économique, qui sont fondamentales pour comprendre ce qui se passe dans la société française. En revanche, s'il s'agit de la part d'Olivier Faure de dire que, par exemple, évoquer le rapport sur les frères musulmans dont nous parlions il y a quelques semaines est à une façon de faire monter l'islamophobie et le racisme d'atmosphère. Là, en revanche, ça me pose un énorme problème. Or, on a entendu ce discours-là. On l'a entendu à la gauche de la gauche, on l'a entendu chez les insoumis et chez différents intervenants. Donc, je pense qu'il y a une inquiétude de la part de beaucoup de Français autour de ces questions-là, mais que ces questions sont mal posées. Et on le voit avec les réactions autour du rapport de Terra Nova, le rapport signé par Hakim El Karoui, sur les travailleurs immigrés avec ou sans eux, qui est une réflexion intéressante sur ce qu'il faut faire de l'immigration dans les années à venir. Je ne partage pas forcément les conclusions de ce rapport qui, justement, ont tendance à nous dire, en gros, pour des raisons économiques, nous avons besoin d'immigration. Et il me semble que c'est l'autre versant du discours de la droite. C'est-à-dire qu'on voit une opposition entre un discours qui est celui, par exemple, porté par Bruno Retailleau et qui se focalise davantage sur les questions identitaires et de l'autre côté, un Édouard Philippe qu'on entendait sur les antennes de France Inter cette semaine et qui, lui, et sur une vision, alors là, uniquement économique, sans qu'on puisse penser, j'allais dire, de façon dialectique, les deux. Et je crois que c'est cette absence de pensée dialectique qui pose un énorme problème. Si on y ajoute l'impression qu'ont beaucoup de citoyens qu'ils ne peuvent pas choisir, justement, qui rentre sur leur territoire, non seulement parce que, évidemment, il n'y a pas d'immigration choisie, mais parce qu'en plus, ceux qui n'ont pas vocation à rester, ou ceux, ils sont immensément minoritaires, qui sont délinquants, restent, ne peuvent pas être expulsés. Là, on atteint un problème.
Gilles ?
Oui, sur le rapport de Terra Nova et d'Hakim El Karoui. Je trouve ce qui est intéressant, c'est que c'est une réflexion pragmatique. C'est-à-dire qu'il ne part pas avec une vision normative de l'immigration, mais il essaye de se poser des questions concrètes, dont le point d'entrée, et c'est pour ça que je me distingue de ce que dit Natacha, n'est pas vraiment ou n'est pas seulement l'économie, c'est quelque chose d'un peu plus vaste que ça. La question, c'est comment on fait pour pérenniser notre modèle social. Et notamment, comment les besoins de personnel, notamment de personnel de soins, peuvent être pourvus, et comment l'équilibre entre actif et inactif peut être stabilisé. C'est ça le point de départ de la réflexion, et ça je trouve que c'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les conclusions auxquelles il arrive, c'est que même le scénario optimiste de l'INSEE, dans lequel on a une natalité qui remonte à 2 enfants par femme, et un solde migratoire de 120 000 personnes par an, solde, c'est-à-dire la différence entre les entrées et les sorties, serait insuffisant pour répondre aux objectifs que je viens d'évoquer. Et donc, il arrive à ce chiffre qu'il faut, en gros, un solde migratoire de 250 à 300 000 par an à horizon 2040-2050. Ce n'est pas quelque chose de considérable, c'est en gros ce que l'on a connu dans les années 2010. Et je trouvais que l'écho de ce rapport était insuffisant jusqu'à ce que Édouard Philippe assume non pas les mêmes chiffres, mais un discours convergent. Et on a le sentiment qu'il y a là une sorte de débat impossible ou de débat interdit. Et je pense que ça serait utile que la campagne présidentielle permette de le conduire.
Rapidement, ce que je trouve très intéressant dans ce rapport, c'est qu'il montre que les Français se trompent totalement sur les chiffres de l'immigration, croient qu'il y a plus d'immigrés qu'il n'y en a, et sous-estiment le taux d'emploi des immigrés, et que ce que montre le rapport, c'est qu'une immigration est beaucoup mieux acceptée quand elle est liée à l'emploi. C'est pour ça quand même que la question de l'emploi, du travail, est essentielle. Et en revanche, juste un petit point. Quand je vois le traitement qu'il y a eu cette semaine sur la lettre commune de 9 leaders européens sur la jurisprudence de la CEDH, en revanche, je me dis que nous avons un problème de traitement de l'immigration en France, de traitement par les médias. Pourquoi ? Cette lettre dit qu'il y a un problème de jurisprudence de la CEDH sur, en gros, on ne peut pas expulser certains délinquants. Ça a été présenté comme une lettre, comme un texte remettant en cause l'état de droit par l'extrême droite. Donald Tusk, dont nous venons de parler, est parmi les signataires, il y a la Belgique, etc. Donc, peut-on réellement poser ces questions-là calmement, sans simplifier les sujets ?
Le grand face-à-face, le duel. Chaque jour, la France avance, grâce à celles et ceux qui transmettent, qui soignent, qui préservent, qui sauvent. Qui protège, qui innove, qui embellisse, qui accompagne, qui soutienne. Ils ont choisi le service public et leurs métiers nous font tous avancer.
Le film de campagne de la Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique, ces métiers qui nous font avancer, l'occasion pour nous d'évoquer ce rapport, ce premier baromètre publié par le ministère de la Fonction Publique cette semaine. Les résultats montrent un attachement fort à la présence des services de l'État, des services publics, l'école, l'hôpital, la gendarmerie obtiennent, Natacha, les taux de satisfaction les plus élevés. On avait plutôt l'impression qu'on était tous en colère contre nos services publics. Non, il y a un attachement très puissant.
Ah bah, je pense d'ailleurs que c'est ce que vient confirmer ce baromètre, c'est ce que nous savons tous, les Français sont extrêmement attachés à leurs services publics.
Satisfaits.
Alors attention, ils sont satisfaits de leur rapport avec les services publics. Bah, est-ce que ça veut dire qu'ils sont satisfaits de l'organisation des services publics et du rendu final ? C'est pas exactement la même chose.
Oh, quand même, non.
Et je ne suis absolument pas étonnée que les Français soient à 81% satisfaits de leur rapport avec l'école, 80% pour l'hôpital. On voit que le plus faible, là aussi c'est assez logique, les tribunaux, France Travail, et surtout ma prime Rénov, hein, France Rénov. Voilà, où on trouve de la complexité. Mais je pense que ce que ça nous raconte, c'est la différence qu'il peut y avoir entre le dévouement et la qualité des fonctionnaires en France, et c'est indéniable et ça se voit dans ce baromètre, et l'effectivité du résultat. J'entends par là la question de savoir si nous gardons un hôpital public qui fonctionne, si nous avons un système scolaire qui fonctionne, et là, il me semble que la réponse est non, malgré le dévouement des acteurs de ces différents services.
Gilles, vous lisez comme ça, les taux de satisfaction, c'est presque, à écouter Natacha, des taux de satisfaction un peu théoriques. Nous aimons l'école, sans entrer dans le détail peut-être de notre rapport.
Et très individuel, au contraire, c'est dans leur rapport quotidien.
Oui, en fait, c'est même le contraire. D'abord, c'est un gros baromètre, hein, c'est 24 000 personnes qui ont été interrogées sur plus d'une vingtaine de services publics ou d'agences. Et ça montre quand même qu'on avait, au moins dans le débat public, une perception sans doute assez erronée, et que dans un pays qui est un pays grincheux, eh bien, le jugement sur les services publics, globalement, et positif. Et c'est vrai quand on regarde les taux de satisfaction, et c'est vrai davantage encore quand on regarde le pourcentage d'insatisfaits qui est très bas. Et c'est vrai de la satisfaction globale, c'est vrai aussi de la facilité d'entrer en contact avec les services publics, de l'accueil, accueil avec bienveillance et respect. Ça, c'est un point positif pour les agents du service public, et même l'attention qui est portée à la situation personnelle. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont des éléments positifs, avec un point d'alerte quand même, c'est que on voit que en fonction de si vous êtes plus ou moins à l'aise avec Internet, le taux de satisfaction change beaucoup. Et un point de surprise, c'est que on est plus satisfait, contrairement à ce que l'on peut-être intuitivement penser, dans le rural que dans l'agglomération parisienne. Je termine. Est-ce que c'est une surprise ? En réalité, c'est une constante. L'Institut Paul de l'Ouvrier, depuis plus de 20 ans, a un baromètre sur les services publics. Et depuis plus de 20 ans, la satisfaction moyenne des usagers est supérieure à 70%. En revanche, depuis plus de 20 ans aussi, et c'est, je pense, une clé de résolution de ce qui peut nous sembler comme des résultats paradoxaux, c'est que l'opinion positive moyenne des Français sur les services publics est inférieure de 30 points à la satisfaction des usagers. Hein, c'est-à-dire que l'idée que l'on a des services publics et donc celle qui ressort beaucoup du débat public est différente de l'expérience que l'on peut en avoir lorsque l'on est un usager.
On les aime en théorie, mais nous vivons en France et pas en théorie.
Non, on ne les aime pas en théorie.
Ah
en
bon
théorie, on en est insatisfait.
Ah,
et quand on en a l'expérience, oui, on en est davantage satisfait.
Alors, à ceci près que il faut définir ce qu'on entend par en théorie. Les faibles résultats de la France dans les enquêtes internationales sur le niveau scolaire, c'est pas de la théorie, c'est du concret absolu. Et pourtant, ça ne change rien au fait que les Français, et heureusement, sont extrêmement satisfaits des professeurs, en particulier de ceux de leurs enfants, de l'accueil qui est fait, du dévouement des enseignants. Et c'est cette contradiction qu'il faut résoudre. Mais pour moi, ce n'est absolument pas quelque chose de théorique.
D'accord. Alors, je précise d'une phrase. On est dans une situation dans laquelle l'écart entre le réel et le situation typique dans laquelle il y a un écart entre le réel et le senti. Mais avec une situation rarissime dans laquelle le ressenti est plus positif que le réel, alors que c'est très souvent l'inverse.
Et attendez, répétez, le ressenti est plus positif que le réel.
Oui, parce que c'est ce que disait Natacha, c'est que les résultats ne sont pas bons. Et l'exemple de l'école est éclairant, ça veut dire que le ressenti individuel est satisfaisant, mais que les résultats collectifs sont insuffisants. Et donc il faut qu'on traite les deux ensemble. Et puis, un tout dernier mot, il y a quand même un bonnet d'âne dans ce baromètre satisfaisant, qui est MaPrimeRénov', Natacha l'a dit d'un mot, avec ce paradoxe piquant, c'est que les Français sont très satisfaits de l'administration qui leur prend de l'argent, les impôts, et très insatisfaits d'un service qui est censé leur en donner par une subvention, qui est MaPrimeRénov'. La complexité, l'instabilité de ce dispositif, je crois qu'il faut vraiment y mettre fin. Là, on aboutit à cette situation absurde dans laquelle il y a un gel d'un dispositif qui est un dispositif absolument essentiel. Espérons au moins qu'il y ait une remise à plat avec une clarification des moyens qui soient alloués dans la durée.
En tout cas, ce que vous me dites sur le réel, le ressenti, ça raconte exactement ce qu'on va évoquer avec notre invité dans la question des voisins. On a toujours l'impression qu'on déteste nos voisins. Notre invité dit qu'on les aime souvent bien.
Le grand face-à-face, le débat.
J'ai toujours préféré aux voisins et voisines.
Bonjour Joanie Caillouet-Tremblière.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, chercheuse à l'INED et nous vous recevons sur cette chanson de Renan Luce qui aime bien ses voisines et que vous allez avoir en tête toute la journée. Et les voisins, c'est l'objet du livre pour lequel nous vous recevons ce midi dans le grand face-à-face. Ce livre, vous le co-dirigez aux Presses universitaires de France. Il s'intitule « Ce que voisiner veut dire ». Et pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter l'homme qui a fondé la fête des voisins. Il s'exprimait avant la dernière édition, le 23 mai dernier.
L'idée de la fête des voisins est venue d'un fait divers tragique. J'ai découvert une voisine âgée qui était décédée depuis 4 mois dans son appartement.
Et c'était un vrai choc de se dire, mais qu'on connaisse pas son numéro de sécu, son nom, son téléphone peut-être, mais qu'on soit pas interrogé en se demandant pourquoi cette personne on la voit plus, voilà. Et je pense qu'un des problèmes majeurs est bien celui de la relation à l'autre. Et du coup, j'ai trouvé un prétexte en me disant comment est-ce qu'on peut faire pour que dans les immeubles, on se parle, dans les lotissements. Et c'est comme ça, d'une triste nouvelle, qui est née une belle aventure humaine, qui est la fête des voisins.
Athanase Périfan, le fondateur donc de la fête des voisins en 1999, on l'a entendu, pour répondre à l'isolement tragique dans l'exemple qu'il donnait, est-ce que la sociologue que vous êtes et qui avait travaillé depuis des années sur la question des voisins est d'accord avec ce constat qu'il faudrait créer une fête parce que sinon il ne reste que l'isolement ?
Ce constat, effectivement, il part d'une idée qui est un peu l'idée qui nous a interrogé en fait au départ quand on a lancé cette enquête au début des années 2010. C'est un constat qu'on retrouvait aussi chez des politiques dans différents milieux, qu'on retrouvait aussi chez des acteurs de la vie, chez des bailleurs sociaux, etc., qui nous disaient en fait il y a un vrai problème de société. On ne parle plus à ses voisins. Et en fait, pour répondre à cette question, la dernière grande enquête dont on disposait, c'est l'enquête menée par l'INSEE et l'INED en 1983, qui s'appelle l'enquête Contact entre les personnes. Ces résultats sont un petit peu anciens. Ils interrogeaient, par exemple, si on avait coutume d'appeler des gens par téléphone ou plutôt de les voir en face à face. Donc, vu l'évolution de la société, on s'est dit que ce serait peut-être pas mal de relancer une enquête pour voir ce qu'il en est aujourd'hui. Et ce qui nous interpellait d'ailleurs, c'est que dans d'autres pays, notamment anglo-saxons, aux États-Unis, étaient documentés depuis la fin des années 90-2000 des choses qui correspondait à ce que disait Athanase Périfan ou que disaient des politiques en France, c'est-à-dire qu'on s'isole de plus en plus et on ne parle plus forcément à ceux qui nous entourent. Le lien de proximité perd un peu de son importance. Eh bien, on va dire quelque chose de positif pour commencer. Oui. En fait, on n'a pas du tout retrouvé ce constat en France. Nous, on est vraiment partis de cette enquête de 1983. On a reproduit une partie de ces questions dans notre enquête qui couvre un très vaste champ de types de contextes résidentiels, de personnes, etc. On pourra y revenir. Mais en répétant ces mêmes questions sur le fait de partager des moments de convivialité, d'échanger des services avec ses voisins, de partager des conversations avec ses voisins, ou alors, pour le versant plus négatif, d'être en conflit avec ses voisins, eh bien, on retrouve à chaque fois des chiffres mais étonnamment stables. On aurait voulu truquer les résultats, on n'aurait pas pu tomber sur des points de pourcentage aussi proches.
On va creuser la question de votre livre, mais une question d'abord toute simple. Pourquoi la sociologie s'est si peu intéressée aux voisins? Alors que c'est, quand on est sociologue, j'imagine que la première chose qu'on fait, c'est d'aller voir son voisin.
Alors, peut-être pas qu'on va voir son voisin systématiquement quand on est sociologue, mais en fait, effectivement, alors on peut pas dire que la sociologie s'y est pas intéressée, parce que si on s'intéresse aux travaux, par exemple, de l'école de Chicago, c'était les relations de proximité. Alors, le terme voisin n'était pas forcément un terme qu'on retrouve beaucoup dans cette sociologie, mais c'est vraiment une sociologie urbaine qui se base sur le lien de proximité. En France, on va trouver des travaux sur les relations de voisinage au sens large, mais qui vont souvent être des travaux très localisés sur un certain quartier. On a beaucoup de travaux sur les grands ensembles, des travaux sur la gentrification.
On avait reçu Fabien Truong ici, et
qui a écrit avec Jérôme Truc sur
D'ailleurs,
sur un quartier.
Voilà, il y a des choses très intéressantes dans le lien à faire entre votre travail et le sien.
Effectivement. Je pense qu'on retrouve des choses qui peuvent être similaires, si ce n'est qu'un des, voilà, une des différences, bon, hormis le fait qu'on a, nous, on a une démarche plus quantitative, même si on a aussi fait beaucoup d'entretiens, c'est qu'on a vraiment voulu avoir une version plus comparative des différents types de contextes. Et c'est ça, en fait, qui manquait à la sociologie française, en fait. C'est d'aller voir, c'est ça qu'on a voulu combler, d'aller voir ce qui se passe dans différents contextes avec un même protocole de recherche.
Et on va y revenir, bien sûr, dans le détail. Mais question d'abord, peut-être toute simple, mais importante, c'est quoi un voisin ? Est-ce que c'est le voisin de palier ? Est-ce que c'est le type qui habite en dessous, au-dessus ? Parce que si quelqu'un vient ici et qui me demande où j'habite, il dit « Ah, un tel habite dans la même ville, vous êtes voisin ?» C'est quoi l'échelle ? À quelle échelle on est voisin dans votre livre ?
C'est une très bonne question. C'est une question que se posait déjà François Héran en interprétant cette fameuse enquête de 1983. Et en fait, c'est une question qu'on ne peut pas résoudre en tant que scientifique à se dire voilà, nous, on a la bonne réponse. Il faut demander aux gens ce qu'ils mettent derrière ce terme. Et en reproduisant là encore un peu la même question que celle des années 80, ce qu'on trouve, c'est qu'aujourd'hui, on met derrière le terme voisin des gens qui habitent plus loin qu'auparavant. C'est-à-dire qu'on a un peu élargi notre échelle de ce qu'est un voisin. Alors, ce qui n'explique pas les résultats qu'on observe, puisque nous, on a voulu contourner cette difficulté en n'introduisant pas le terme voisin dans nos questions, c'est-à-dire qu'on pose des questions aux gens sur les relations avec les personnes qui habitent leur immeuble ou les maisons alentours, ou alors qui habitent leur quartier ou leur commune, en essayant de reprendre des termes qui sont moins polysémiques que celui de voisin, justement.
Gilles.
Oui. Je crois que c'est très important de s'intéresser aux relations sociales et notamment de s'intéresser aux sociabilités et aux lieux de sociabilité. La Fondation Jaurès l'avait fait il y a peu de temps en faisant une enquête sur les PMU. Et c'était sur la France des PMU. Et c'était très intéressant. On l'avait fait un peu avant sur les supermarchés. J'aimerais beaucoup qu'on le fasse, par exemple, sur les salles de sport. Et donc, le voisinage, c'est un sujet absolument passionnant. Et ce qui est très intéressant dans votre enquête, c'est que par rapport à d'autres, on a évoqué celle de Fabien Truong, c'est qu'il y a une grande diversité de types de résidences et de types de populations, et que donc ça donne, disons, un début de vision globale des relations de voisinage. Et je voudrais prolonger sur cette question de l'intensité des relations de voisinage. Vous dites que, un peu contrairement à l'intuition ou à ce qu'il y a dans le débat public, ça reste des relations qui sont intenses. Moi, il y a un mot qui m'a frappé dans le livre, c'est la confiance que l'on a dans ses voisins. Comment elle se manifeste? Et je dis ça parce que ça fait écho à l'enquête que l'on réalise chaque année sur la confiance des Français, dans laquelle il y a une des questions qui est: est-ce que vous avez confiance dans vos voisins? Et on voit que, en gros, ça reste stable et que 2/3 des Français, ce qui est beaucoup dans un pays qui est défiant, 2/3 des Français disent avoir confiance dans leurs voisins. Donc, comment ça se manifeste? Comment ça s'explique, cette confiance dans les voisins?
Je pense que la confiance, c'est un des points de départ de ces relations, et c'est d'ailleurs ce que montrent les enquêtes américaines, hein, c'est ce qui manque aux États-Unis pour nouer des relations. C'est-à-dire que les gens disent qu'ils n'ont pas confiance aux gens qui les entourent, et c'est pour ça, en partie, en tout cas c'est lié à ça, qu'ils ont moins de relations avec eux. En France,
C'est la cause ou la conséquence ?
C'est un peu les deux. Si on regarde le sociologue Robert Putman, en fait, ce qu'il observe, c'est des corrélations entre les deux. Donc, moi, on a confiance entre des gens. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les gens qui nous ressemblent et les gens qui sont différents de nous, notamment d'un point de vue interracial, etc. Bon, c'est des manières de penser aux États-Unis. Mais ce qui montre, c'est que les deux sont liés. C'est-à-dire que moins on a confiance, moins on va entretenir des liens, et on est sur des niveaux de confiance qui n'ont rien à voir avec ce qu'on observe effectivement en France. Une des manifestations concrètes de la confiance, c'est la part importante de personnes qui se reposent sur un voisin pour surveiller son logement, pour lui confier ses clés, pour lui demander d'intervenir dans son logement pour arroser ses plantes, venir nourrir ses animaux, ou alors garder ses enfants en son absence. C'est tout un ensemble de choses dont on peut penser qu'on ne fait qu'avec des gens en qui, effectivement, on a confiance. Cette part, elle est particulièrement importante dans les quartiers où on va avoir des populations qui vont être le plus proches socialement. C'est-à-dire qu'on va le faire, mais on va le faire quand même dans des quartiers où on va avoir le plus d'entre-soi, le moins de mixité sociale. Quand même.
Mais est-ce que c'est pas aussi cette confiance qui se maintient, voire qui progresse, contrairement aux pays anglo-saxons, elle s'érode entre les voisins? Est-ce que c'est pas aussi le signe d'une forme de ghettoisation par le haut et par le bas? On habite de plus en plus dans des quartiers où les voisins nous ressemblent, et donc peut-être que la confiance, elle est plus évidente, plus naturelle, plus forte, avec des gens, et vous venez de commencer à le dire, qui nous ressemblent. Est-ce que c'est pas ce qu'on peut dire, c'est formidable la confiance, mais est-ce que c'est pas aussi le résultat d'une ghettoisation et d'une absence de mixité entre voisins?
Alors, pas forcément, on pourrait pas aller jusque-là, puisque nous, ce qui nous a intéressé, effectivement, c'est de comparer différents types de contextes, des contextes très mixtes, des contextes entre soi, des contextes en changement aussi, en allant voir ce qui se passe dans la rénovation urbaine, dans les contextes de gentrification, dans les contextes ruraux également. Donc, effectivement, au sein de son voisinage, on va avoir plutôt confiance en des gens qui nous ressemblent, mais les voisinages n'ont pas du tout le même niveau de ghettoisation que ce qu'on va voir justement aux États-Unis, par exemple.
Et là, il n'y a pas de confiance.
Et là, pour autant, il n'y a pas de confiance.
Natacha.
Cette économie du don et du contre-don que vous décrivez, et qui est absolument passionnante, elle est très intéressante aussi dans sa dimension négative. Et c'est ça qui m'a intéressée, c'est tous les passages où justement on voit que tout cela est brisé. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans ce que vous décrivez comme les mauvaises relations entre voisins, intervient une dimension de jugement moral, une dimension de distance parfois, où on se dit en gros ce n'est pas le même mode de vie et donc on ne le comprend pas. Et cette question de savoir si on se considère comme appartenant à la même société me semble passionnante. J'ai toujours en tête cette vertu grecque dont je parlais la semaine dernière, qui est l'aïdos, c'est-à-dire l'idée que nous existons, enfin le sens de l'honneur, puis la honte, puis la pudeur, et le fait en fait que nous vivons en société. Et dans un texte de la guerre du Péloponnèse, Thucydide fait dire à Périclès que dans la démocratie, il dit nous respectons les lois, surtout celles qui assurent la défense des opprimés et qui, tout en n'étant pas codifiées, impriment à celui qui les viole un mépris universel. Est-ce que vous décrivez, ce n'est pas tout simplement justement cela exactement, cette existence de lois non écrites, mais de codification, George Orwell aurait appelé ça la décence commune, qui fait qu'on sait intuitivement ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, et que ceux qui transgressent et qui font ce qui ne se fait pas rompent cette confiance.
Joanie Caillouette-Tremblière.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Je pense que ça renvoie à un certain type de quartier, des quartiers bien installés, et notamment ces quartiers d'entre-soi qui vont être dans une stabilité au fil du temps. Ça, on va le retrouver clairement dans les quartiers bourgeois de centre-ville où il y a des règles communes que tout le monde doit... que tous les gens doivent respecter lorsqu'ils arrivent, comme à la moindre petite incartade, on leur rappelle ces règles. Ça permet une certaine stabilité dans les relations de voisinage, mais ça explique aussi que c'est dans ce type de contexte que les gens vont avoir le sentiment de se sentir jugés par leurs voisins. Inversement, dans les quartiers où il y a le plus d'interventions publiques, où il y a le plus de mixité sociale qui est programmée, qui est investie par les pouvoirs publics, etc., on ne va pas du tout retrouver ça. Puisque, en fait, on va avoir une instabilité de ce qu'est la règle collective. On n'a pas ce que Jean-Claude Chambre-Breton et Madeleine Lemaire appelaient des groupes qui donnent le ton, qui expliquent les règles un peu invisibles et qui font que soit on est dans la règle, soit on n'est pas dans la règle, mais si on n'est pas dans la règle, on sait qu'on n'est pas dans la règle. Là, on ne connaît pas les règles. On ne connaît pas quelle est la bonne manière d'aller prendre contact avec son voisin. Est-ce que ça se fait d'aller frapper chez le voisin pour l'inviter à l'apéro, ou est-ce que c'est envahissant? Est-ce que ça se fait de poser son sac poubelle sur le palier le temps de ranger son enfant et de sortir dehors, ou est-ce qu'on va se prendre systématiquement une remarque d'un voisin? Ces règles, elles ne sont pas si bien codifiées dans ces contextes en transformation, qui sont quand même très nombreux, puisqu'il y a beaucoup d'interventions publiques dans le voisinage et dans la transformation de nos villes. Et à ce moment-là, là, c'est plutôt source de gêne, mais beaucoup moins de jugement. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces quartiers où les règles sont moins codifiées, les gens rentrent moins en conflit et les gens estiment moins se sentir jugés. Ce qu'on va retrouver, c'est plus de l'indifférence. C'est bon, je suis un peu gênée par ce qui se passe autour, mais en fait, j'en fais rien, je reste un peu à distance de tout ça. Et donc, on va avoir moins de relations positives, mais aussi moins de relations négatives.
C'est quel type de localisation, ce que vous évoquez là, où il y a moins de jugement? Est-ce que c'est là où il y a beaucoup de turnover, les gens, il y a beaucoup de locataires, les gens sont là depuis moins longtemps, c'est ça? C'est un peu ce genre de...
Pas forcément ça, en fait. Je pense à la fois à des quartiers qui ont connu de la rénovation urbaine, donc des grands ensembles en transformation, des nouvelles copropriétés, ou alors des quartiers complètement neufs. On a un type de contexte qui, moi, m'a particulièrement intéressé dans cette enquête. C'est ce qu'on a appelé des quartiers de mixité sociale programmée, donc en fait, qui sont des quartiers neufs construits dans les années 2000 sur d'anciens espaces industriels dans les villes. On en a plein. Bon, voilà, on peut penser à la ZAC Paris-Rive-Gauche, par exemple, à Paris, où on a enquêté sur le quartier du Port à Choisy-le-Roi et dans une ZAC qui s'appelle le Bon Lait dans le 7e arrondissement de Lyon. Et c'est des quartiers qui sont peuplés en partie par des propriétaires, dans des copropriétés, aussi par des locataires HLM et aussi par des locataires privés. Mais c'est des quartiers qui avaient une dizaine d'années au moment de l'enquête et où cette stabilisation, elle n'est pas du tout encore effective.
Gilles.
J'ai été très intéressé par un point, enfin par beaucoup de points, mais notamment par le point suivant sur lequel je voudrais vous interroger, c'est que vous expliquez que pour comprendre à la fois l'intensité et la nature des relations de voisinage, l'élément le plus discriminant, c'est pas l'âge, c'est pas le type de quartier, c'est la classe sociale.
Oui.
Et peut-être de manière contre-intuitive, vous dites que les classes populaires, qui sont celles qui auraient le plus intérêt en termes de ressources à nouer des relations de voisinage, sont celles qui en nouent relativement le moins, et que, à l'inverse, les classes supérieures en nouent davantage. Pourquoi et quelle forme prennent ces relations?
Alors, c'est un résultat particulièrement intéressant sur lequel on a vraiment voulu approfondir, qui est pas complètement surprenant puisque désolée de revenir encore à cette enquête des années 80, mais François Héran montrait déjà ça hein, sur la France. Il avait publié un article qui s'appelait « La sociabilité, une pratique culturelle » qui insistait sur le fait que, en fait, que ce soit les relations de voisinage ou d'autres relations, elles évoluaient comme les pratiques culturelles légitimes. Et donc, plus on est doté, plus on a ce type de relation.
C'est ce que vous appelez la logique de cumul, qui est un élément très intéressant aussi.
Effectivement, ouais, c'est la logique de cumul, c'est-à-dire que plus on a des relations, plus on a de nouvelles relations. Donc, ne vont pas s'investir dans le voisinage des personnes qui n'ont pas de relations par ailleurs et qui vont venir compenser par des relations de voisinage. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait avoir, une idée intuitive qu'on pourrait avoir. Eh ben, ça ne correspond pas du tout à la réalité. Hein. Ceux qui vont nouer des relations dans leur voisinage, ceux qui vont investir ce type de relations, c'est ceux qui ont par ailleurs déjà des ressources à l'extérieur, qui ont par ailleurs des liens familiaux approfondis, des amis à l'extérieur, qui n'ont pas, c'est pas ceux qui ont le plus besoin des relations de voisinage. À l'inverse, ceux qui sont plutôt dans un isolement relationnel à l'extérieur et qui se trouvent à être principalement des membres des classes populaires, entendus au sens large, eh bien, vont avoir plus de difficultés à nouer des relations de voisinage. Alors, vous posez la question de la raison. Ça, ça nous a vraiment intéressés puisque c'est assez paradoxal. On pourrait se dire, elles en ont besoin. Ces gens sont quand même autour d'elles. Pourquoi est-ce que ces personnes ne nouent pas de relations avec leurs voisins ? Eh bien, il y a plusieurs explications qui nous sont venues. La première, c'est celle de la maîtrise de leur trajectoire résidentielle. En fait, les classes populaires ont beaucoup moins de maîtrise de leur trajectoire résidentielle. Que ce soit, elles ont moins de maîtrise des raisons qui les ont amenées à s'installer là où elles sont. Donc, elles ont moins choisi leur lieu d'habitat. Et puis, elles ont moins la capacité à pouvoir s'en extraire au cas où les relations tournent mal. Et en fait, les relations de voisinage, c'est toujours des relations risquées, puisque rentrer en conflit avec son voisin, c'est quelqu'un qu'on va revoir tous les jours.
Ouais, j'aimerais qu'on s'y arrête d'ailleurs là-dessus, parce que c'est hyper important. Allez-y, continuez. Donc sur les conflits de voisinage, parce que c'est le revers de la confiance, quoi. C'est aussi ce qui peut faire craindre de rentrer en contact avec son voisin ou d'entrer trop souvent en contact avec son voisin. Ça, vous l'avez lu, vous l'avez documenté. Est-ce que c'est plus puissant qu'en 83, ça ? Est-ce qu'il y a plus de conflits entre voisins aujourd'hui que lors de la précédente enquête ?
Ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas forcément plus de conflits que dans la précédente enquête. Également, de manière contre-intuitive, ce qu'on observe, c'est que les conflits sont principalement dans les quartiers bourgeois et gentrifiés de ville-centre et moins importants dans les quartiers populaires. Toutefois, lorsqu'on fait des entretiens et qu'on regarde dans le détail les conséquences de ces conflits ont des conséquences beaucoup plus lourdes pour les ménages de classe populaire, à la fois parce qu'elles ont beaucoup plus de difficultés à s'en extraire, parce que parfois elles tirent quand même des ressources de leur voisinage ou elles ont tiré des ressources à un moment donné de leur voisinage, donc rentrer en conflit avec la voisine avec qui par ailleurs on avait un arrangement pour aller chercher ses enfants à l'école, c'est quand même beaucoup plus coûteux que la voisine qui gardait nos clés au besoin et on peut en trouver une autre, etc. Et puis ces conflits sont moins régulés dans ces quartiers. Et là, c'est toute la question de la régulation des conflits hein, qui aussi explique cette difficulté des classes populaires à rentrer en relation.
J'adore mes voisins, mais j'aimerais qu'on creuse là-dessus, sur les conflits. C'est quoi les raisons, c'est quoi les causes des conflits avec les voisins ?
Alors, la première cause, c'est certaines gènes qui vont déraper en conflit. Donc, ce qu'il faut quand même dire, c'est que nous, on a interrogé à la fois sur ce qui nous gêne chez les voisins et sur les objets des conflits. Ouais. Et un élément qui est fondamental, hein, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont gênés par beaucoup de choses de leurs voisins et qui ne rentrent pas forcément en conflit par rapport à ça. Toutefois, dans les deux cas, le bruit est la principale gêne et le principal objet de conflit. Mais dans un cas sur deux, on peut être gêné par le bruit, mais ça ne va pas forcément dériver dans des questions de conflit. Donc, le principal objet de conflit, donc ça va être ces gènes qui vont déraper, donc principalement les bruits. Ensuite, on a d'autres objets de conflit, la gestion de la copropriété. Hein. Un conflit sur 10 est lié à une gestion de copropriété. Quand on sait que tout le monde n'est pas propriétaire, ça fait quand même une part importante des conflits. Et puis, on a tout un ensemble de conflits qui sont liés aussi à l'usage des parties communes ou des espaces publics, comment est-ce qu'on se comporte dans les parties communes, ou des styles de vie ou des remarques qui peuvent être blessantes et qui peuvent contribuer à nouer également des conflits.
Natacha.
Oui, la question du bruit, moi, ça a fait écho en moi à ce rapport que nous avions analysé ici de la Fondation Jean Jaurès sur la société idéale et où 56% des Français choisissent leur habitat pour le calme et la tranquillité. 37%, ce qu'ils veulent, c'est la possibilité d'avoir un espace privé important. Et 32%, les relations apaisées avec les habitants. Et on voyait à quel point cette question que vous traitez est cruciale. Je voudrais revenir juste sur un point que vous avez évoqué, peut-être pour aller un petit peu plus loin. Dans la conclusion, vous insistez sur cette idée que ce n'est pas parce que les gens sont centrés sur le local, on parle là de la partie immigrés de la population, ce n'est pas parce qu'ils sont centrés sur le local qu'ils ne s'intègrent pas. C'est sans doute un peu l'inverse. Et ça va à l'encontre de cette vision qu'on aurait de quartiers qui vivraient de façon communautarisée et qui ne voudraient pas se sortir. Je voudrais que vous développiez cette idée en lien avec ce que vous montrez aussi, qui est le fait que en fait, les gens de quartiers populaires et qui sont d'origine immigrés vont avoir plus de tendance à fréquenter une plus large palette de communautés, d'individus venant de partout. Enfin voilà, je vous laisse commenter ça.
Joannie Caillouette-Ramblière.
Oui, il y a deux points dans ce que vous dites. Le premier, c'est celui de l'investissement dans les relations locales et puis de l'investissement dans des relations à l'extérieur du quartier. On a traité cette question avec tout un ensemble de variables et comme on le disait très justement tout à l'heure, le principal déterminant de cet investissement, c'est la classe sociale et c'est pas le rapport à l'immigration. Quand on regarde ce qui se passe pour les immigrés et pour les descendants d'immigrés, ce qui apparaît l'élément le plus déterminant, c'est la difficulté à nouer des liens à l'extérieur de son quartier pour les descendants d'immigrés. Ils n'ont pas plus de liens que les autres à l'intérieur, mais ils en ont moins à l'extérieur. Donc, c'est pas parce qu'ils ont trop de liens à l'intérieur, c'est pas parce qu'ils sont enfermés qu'ils n'arrivent pas à nouer des liens à l'extérieur, puisqu'ils n'en ont pas plus que les autres à l'intérieur. Mais, et là, ça nécessiterait d'autres enquêtes, puisque nous, on a interrogé de manière quantitative l'importance de ces liens à l'extérieur, mais on n'est pas allé les étudier de manière aussi fine que ce qu'on a fait sur ce qui se passe à l'intérieur du quartier. Mais ce qui apparaît, c'est vraiment cette difficulté à nouer des liens dans un espace où on n'a peut-être pas cette ressource de confiance, cette reconnaissance, le fait d'être connus les uns des autres, ou alors il y a plus de racisme aussi à l'extérieur des quartiers dans lesquels vivent les descendants d'immigrés.
Question très courte. Il y a des politiques volontaristes aidées à la fois par le numérique et par les municipalités pour intensifier les relations de voisinage, les jardins partagés, les réseaux sociaux de quartier, la fête des voisins dont on entendait tout à l'heure. Quel bilan on peut en faire? Est-ce que ça marche?
Est-ce qu'on peut forcer la relation entre les voisins?
Ou l'aider?
Oui.
Alors, on va pas dire que le bilan il est complètement négatif ou inexistant, mais en tout cas, ça n'a pas l'effet que l'on pourrait leur prêter. Si on s'intéresse par exemple à la fête des voisins, ce qu'on va voir, c'est que participent à la fête des voisins ceux qui ont par ailleurs déjà des relations de voisinage. Ils vont y aller avec des voisins qu'ils connaissent déjà. Donc, ça va contribuer à renforcer ces relations préexistantes, mais contrairement à ce qui était quand même l'idée et un idéal hein, qu'on pourrait tous avoir de rencontrer des voisins ou qu'il y ait les personnes qui sont complètement isolées pour y rencontrer de nouvelles personnes, dans l'enquête, on observe que c'est très très rare que ça va être un lieu de rencontre de nouveaux voisins.
On pourra aussi évoquer dans la prochaine enquête peut-être le télétravail qui aurait émergé et qui transforme pour le coup les voisins en collègues parfois de bureau et là le bruit peut être insupportable. On a commencé l'émission en rendant hommage à Pierre Nora, j'aimerais la finir en rendant encore hommage à Pierre Nora qui est l'inventeur de l'égo-histoire. Faisons un peu d'égo-sociaux, vous êtes quelle voisine vous?
Je dirais que je suis une voisine qui a la chance d'avoir des amis dans son voisinage, donc ce qui est quand même le cas d'un tiers des gens qu'on a pu enquêter. J'ai tout un ensemble de caractéristiques, que ce soit l'âge, le sexe, la situation familiale, qui va avec le fait d'entretenir pas mal de relations avec ses voisins.
Et ben on embrasse vos voisins qui nous écoutent peut-être s'ils sont vos amis. Merci beaucoup Joannie Caillouette-Ramblière d'avoir été avec nous pour cette émission. Le titre de votre livre, Ce que voisiner veut dire aux presses universitaires de France. Merci beaucoup, merci à Gilles et merci à Natacha. Merci à l'équipe du Grand Face à Face, Mathilde Clat à la préparation de l'émission, Maria Pesquet et Marie Mérier à la réalisation. Aujourd'hui, Élise Christophe était à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France.